La question qui nous réunit est donc, la justice relève-t-elle de la morale ou du droit? Alors, la question apparaît sans cesse, elle apparaît aujourd'hui quand on se demande si retirer une jeune fille kosovare du lycée en pleine journée parmi ses collégiens amis en application d'une règle de droit, est-ce que c'est bien moral? Des gens trouvent que c'est choquant. Alors, il faudrait vérifier si c'est bien juridique, il faudrait vérifier si c'est bien moral. Et donc, la plupart du temps, enfin souvent, on est conduit à penser qu'il y a un grand nombre de fautes morales que le droit ne poursuit pas. Il y a un grand nombre de mesures prises du point de vue juridique qui, peut-être, concernent l'accord entre les parties, les rapports de force, les intérêts mutuels des plaignants, mais qui, au fond, n'ont pas grand-chose à voir avec la morale. Et cependant, on se dit que si le droit n'est pas fondé sur une exigence morale que les consciences peuvent comprendre, que les consciences peuvent partager, il est impuissant. Parce qu'on ne va pas mettre un flic derrière chaque conscience. Donc, si le droit a une certaine efficacité, s'il peut être compris, s'il peut être observé, c'est bien parce que les consciences partagent quelque chose de ce qu'il signifie et comprennent ce vers quoi il fait sens, sans avoir toujours besoin de connaître les textes. En gros, vous êtes comme moi, vous êtes sans doute à peu près honnête. Beaucoup ont des têtes d'honnêtes gens, là, ce soir. Moi, je suis à peu près honnête. Je ne connais rien au droit. Et donc, ce n'est pas le droit qui régit nos conduites. C'est quelque chose de plus compliqué. Oh, ce n'est pas non plus la morale. C'est les mœurs. Ce qui fait qu'on dit bonjour à la dame, qu'on rend la monnaie, qu'on ne se promène pas tout nu. Ce n'est pas la morale. Ce n'est pas le droit. C'est les mœurs, qui permettent d'accorder un certain nombre de pratiques collectives qui ont un caractère contraignant, bien qu'elles ne soient jamais formulées, car les mœurs ne sont pas formulées, sauf dans quelques manuels de maintien, peut-être, de la comtesse de Rothschild. Mais les mœurs, nous les suivons au fond, sans savoir pourquoi. Nous ne les découvrons qu'à l'occasion de leurs transgressions scandaleuses. Mais tant qu'elles ne sont pas trop transgressées, nous passons pour d'honnêtes gens tant que nous suivons les bonnes mœurs. Or, les bonnes mœurs n'ont pas forcément quelque chose à voir avec la morale. Par exemple, dans les bonnes mœurs, il y a le sens de l'honneur. Il n'y a pas grand-chose à voir avec la morale. C'est ce sens de l'honneur qui fait les duels qui affrontent des chevaliers, mais des proxénètes aussi, qui s'entretuent gaillardement au nom de l'honneur, car il y a un honneur des proxénètes. Donc s'il y a un honneur des proxénètes, on ne peut pas dire que l'honneur soit une valeur morale fondamentale. C'est une condition des mœurs, une manière d'être reconnu dans un cadre donné. Donc il conviendrait de distinguer la morale, les mœurs, le droit. Mais le véritable ciment du consensus social, c'est les mœurs. C'est ni la morale, ni le droit, ni la morale qui est sans doute trop pure pour beaucoup de nos conduites, ni le droit qui est ignoré par la plupart d'entre nous et est bien loin de régir nos actions. À la rigueur, il les règle quand elles se dérèglent. Alors je trace à grands pas la distinction entre ces trois catégories. Donc je disais, les mœurs, elles procèdent essentiellement par imitation. elle renvoie à des images, à des stéréotypes, à un certain nombre de conformismes qui font la distinction du convenable et du pas convenable. Donc il y a des sociétés où l'on mange avec les mains, des sociétés où l'on mange avec une fourchette, des sociétés où l'on crache par terre, des sociétés où on ne crache pas, des sociétés où on s'habille de telle manière et d'autres où on s'habille autrement, des sociétés où on s'habille beaucoup moins. Et vous ne paraissez scandaleux et transgressif que dès l'instant que vous sortez de cette communauté qui se reconnaît à travers un certain nombre de conduites qui ont une influence très forte. Pourquoi ne suis-je pas venu ce soir en mini-jupe ? Certains ont l'air de le regretter. Mais ce qui m'empêche de venir en mini-jupe, ce n'est pas que la mini-jupe soit immorale. Ce n'est pas qu'elle soit interdite par le droit. Ce qu'elle n'est pas possible en fonction des mœurs. Et mais si on peut toujours imaginer que si les mœurs changeaient, après tout, on pourrait très bien concevoir que le conférencier que je suis vienne ce soir en mini-jupe, protégé d'ailleurs par une nappe. La morale, elle, suppose l'exigence d'une conscience qui d'ailleurs sera sans doute souvent amené en conflit avec les mœurs. Par exemple, va refuser le code de l'honneur qui exige que je fasse un duel. Qui, par exemple, va refuser d'être complice dans un monde où on cafte pas. On cafte pas. C'est de la morale ? C'est du droit ? Non. C'est des mœurs. C'est ce qui fait vivre la mafia. C'est ce qui fait la solidarité des groupes. Et celui qui dit « Non, non, votre règle mafieuse, moi, je ne la suis pas. » Alors lui, tout d'un coup, en lui naît une conscience morale, c'est-à-dire assez solitaire. Il va prendre le risque d'être pleinement libre. Et donc la morale, c'est ce qu'une liberté se doit à elle-même. Voilà pourquoi la notion de justice qui nous réunit ce soir est une notion qui est ambiguë car, d'une part, elle désigne une vertu morale qui, souvent, dans les grands témoignages que nous avons, a entraîné la condamnation du juste. Socrate en est le premier, le Christ. L'Occident est fondé sur deux procès de justes, deux condamnations de justes. Nous avons deux cadavres coulés dans nos fondations. La justice désigne une vertu, et puis elle désigne une institution. Le ministère de la justice, le palais de justice. À ce moment-là, cela renvoie donc à une institution visible, qui exprime un certain rapport au pouvoir. La question est alors la suivante. Cette institution de justice, le palais de justice, le ministre de la justice, a-t-elle pour but d'assurer l'ordre social ou de dire le juste ? Si elle a pour but d'assurer l'ordre social, elle peut négocier des compromis. Elle peut ne pas poursuivre des fautes qui ne perturbent pas l'ordre social. Si elle a pour fonction de dire le juste, en revanche, elle pourrait être conduite à poursuivre des fautes, même si, d'ailleurs, elle ne trouble pas l'ordre social. Par exemple, la prostitution. Ça ne trouble pas l'ordre social. Même tout le monde dit que ça le renforce. Mais si le droit veut intervenir du point de vue moral, par exemple, ça pose la question qui se pose ces jours-ci. Qui doit payer l'amende ? Est-ce le client ? Est-ce la prostituée ? Le paradoxe tient à ce que l'institution justice fait place, il faut l'avouer, aux attitudes les plus mesquines et les plus sordides. C'est ce que disait Cicéron, la justice est sublime, mais elle arbitre des querelles de chute de tuiles, de géranium qui dépasse de 10 cm sur le terrain du voisin. Et on a donc une tension entre le sublime et le ridicule, pour ainsi dire, quand on voit donc la mesquinerie des arbitrages et la sublimité de l'exigence de justice. Pascal disait « Quelle chose remarquable que la justice qui, par la concupiscence c'est le désir dans sa forme possessive, quelle chose remarquable que la justice qui, par la concupiscence, produit un ordre tout semblable à celui de la charité. Tout semblable. C'est-à-dire que la justice nous fait vivre comme si nous nous aimions. Mais en fait, elle règle le fait que nous ne nous aimons pas. Si nous nous aimions autour de la table familiale, le gâteau serait partagé à égalité. Chacun serait là à dire « Serre-toi, serre-toi ». Mais comme nous ne nous aimons pas, le gâteau est partagé à égalité. Ce qui revient exactement à la même chose que la charité. Quelle chose admirable que la justice, qui par la concupiscence obtient un ordre exactement semblable à celui de la charité. Et l'égalité peut être l'expression de la charité, ou elle peut être l'expression du calcul le plus mesquin de la balance la plus inspirée par la jalousie et la violence sous-jacente. Je développerai très vite la différence entre la morale et le droit, et très vite aussi ce qui les oppose. Premièrement, la différence entre la morale et le droit, et on laissera de côté la question des mœurs, bien qu'elle soit en arrière-fond. La morale est caractérisée par la présence d'un devoir. Un être moral, c'est quelqu'un qui est capable de s'obliger. Noblesse oblige. Si quelqu'un n'est pas foutu de s'obliger, c'est même pas la peine de parler de morale. Deuxièmement, cette obligation, elle suppose que le sujet s'efforce de vivre de manière pleinement cohérente, sans mensonge, sans dissimulation, sans contradiction. S'obliger à vivre sans contradiction, c'est le béaba de la morale. Et si je vis et si je vivais sans contradiction, je n'aurais pas besoin de mentir, je n'aurais pas besoin de cacher, je n'aurais pas besoin de tricher. C'est-à-dire que les conséquences en viendraient toutes seules. Cette manière de vivre sans contradiction est une manière d'affirmer la dignité en moi et dans l'autre. Donc ça, c'est ce que Kant a bien dessiné, que l'obligation morale est celle qui exprime la dignité de l'homme. Cette dignité tient au fait qu'un homme ne peut pas être traité comme une chose, ne peut pas être traité comme un moyen. Et donc je ne peux pas non plus me traiter comme un moyen et je ne peux pas traiter l'autre comme un moyen. Le droit, c'est pour ainsi dire inversement ce que je peux exiger de l'autre. Non pas l'obligation que je me donne à moi-même, mais ce que je peux exiger de l'autre. J'ai droit à. Et ce que je peux exiger de l'autre, dans un processus d'échange, de telle sorte qu'il est parfaitement concevable que si j'étais seul sur une île déserte, les obligations morales sont les mêmes. Mais si je suis seul sur une île déserte, je n'ai pas besoin de droit. Je n'ai aucun droit à revendiquer à l'égard de quiconque. Seul sur une île déserte, je devrais rester cohérent avec moi-même, ne pas me mentir à moi-même, rester digne et libre. Seul sur une île déserte, j'aurais pas besoin d'avoir de texte sur les contrats, les échanges et de sanctions pour poursuivre les fautes, sauf si, comme le héros de Michel Tournier, j'essaye de construire une espèce de cité tout seul. Cette distinction entre la morale et le droit fait que la morale n'a pas de texte. Le droit en a un, et même la caractéristique fondamentale de la règle de droit, c'est qu'elle est publiée. On ne peut pas être poursuivi pour une règle de droit cachée. On ne peut pas être poursuivi pour une règle de droit inconnue. On ne peut pas être poursuivi pour une règle de droit qui n'existe pas encore. La caractéristique fondamentale de la règle de droit, c'est d'être publiée. La morale exprime une obligation. Le droit, lui, exprime une contrainte. L'obligation, c'est ce qu'une liberté se doit à elle-même. La contrainte, elle agit sur ce qui n'est pas libre en moi, c'est-à-dire la possibilité que j'ai d'être obligé de payer, d'aller en prison, d'être soumis à une certaine violence. Je suis dans l'ordre de la contrainte. La morale, en tant qu'elle renvoie à la liberté, est universelle, à la différence des mœurs, qui sont locales. Les mœurs sont locales. Mais être en mini-jupe ou pas, ça n'a rien à voir avec la morale. Ça n'a rien à voir avec les mœurs. La morale est universelle, alors que le droit vaut dans un territoire donné. Et il s'arrête aux frontières. Ce qui pose la question des droits de l'homme et de l'humanitaire, etc. Enfin, la morale porte sur l'intention et sur le rapport entre l'intention et l'acte. Le droit ne porte que sur des conduites observables. Une fois qu'on rentre dans cette distinction, on comprend la différence qu'il y a entre le juste, au sens de l'homme juste, et le juste au sens de la chose juste. Car du point de vue du droit, c'est la chose qui est juste, c'est pas l'homme. Je ne demande pas à mon fromager d'être un honnête homme. Je lui demande de me donner le juste poids pour le juste prix. C'est la chose qui est juste. Alors on appelle un fromager juste celui qui délivre la chose juste. Que m'importe que par ailleurs il le fasse par générosité, par calcul, par je m'en fiche, du moment qu'il me donne la chose juste. Ça n'a rien à voir avec ses qualités morales personnelles. S'il le fait par crainte du gendarme, que m'importe, il m'a donné la chose juste. S'il le fait par crainte du gendarme, il n'est pas moral, mais que m'importe, il m'a donné la chose juste. Donc c'est le juste prix, le juste salaire, le juste espace, etc. Et donc le droit s'intéresse à la justice en tant qu'elle concerne les rapports entre les hommes, dans la mesure où ces hommes ont des choses entre eux. Et le droit détermine le partage des choses, le partage des temps, le partage des espaces. Alors que l'homme juste, ça c'est la chose juste, donc la chose juste, elle s'évalue dans un contexte donné. L'homme juste, lui, pensons par exemple à Socrate. Il peut très bien, et c'est la plupart du temps son cas, se montrer complètement indifférent à la défense de ses droits. L'homme juste est indifférent à la défense de ses droits. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans Socrate et dans le Christ, qui vraiment ne se défendent absolument pas et ont une attitude assez dédaigneuse même à l'égard de leurs juges. Car défendre leurs droits ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est au contraire de manifester leur liberté comme conscience souveraine. Donc ils n'ont pas des choses à défendre. Ils ont l'affirmation de leur propre dignité, et cette dignité, elle ne se mesure pas aux choses auxquelles ils ont droit. Toutefois, bien qu'ils ne s'intéressent pas à la défense de leurs droits, ils n'y renoncent pas. Car si un homme a le sens de sa dignité, il lui est normalement interdit de renoncer à la défense de ses droits. Vous savez, c'est le fameux épisode que tout le monde connaît des lancers de nains. Donc une boîte de nuit avait trouvé rien de plus drôle que de faire des lancers de nains. Ces nains étaient consentants à être lancés. Il s'en est suivi un procès au cours duquel les nains ont dit « Mais nous sommes consentants. Il y a un contrat. J'ai un salaire. Je suis lancé. Je suis d'accord. » Donc, du point de vue juridique, la situation est apparemment intacte. Oui, mais du point de vue moral, on peut reprocher à quelqu'un, précisément, d'avoir renoncé à sa propre dignité. Alors, il faudrait le faire pour la prostituée. C'est-à-dire que tout ce qui est contractuel n'est pas pour autant juste, tout ce qui est contractuel n'est pas pour autant moral, et il n'est pas légitime qu'un homme bafoue sa propre dignité, qu'il renonce à ses droits fondamentaux, même si par ailleurs, en tant que juste quelque peu dédaigneux à la manière de Socrate, il est indifférent à la poursuite de ses droits. Voilà, ceci n'a pas d'autre portée qu'une manière de rencontrer la question qui va être éclairée par les juristes qui sont à côté de moi et qui sont bien plus compétents. Ceci pour indiquer au fond que la justice, c'est l'horizon qui dépasse et qui fonde le droit. Qui dépasse et qui fonde le droit. Car l'insurgé, lui, il se réclame de la justice. Et l'insurgé, il se réclame d'une justice qui n'est précisément pas dans les textes. Il n'est donc pas possible de dire que la justice se confond avec le droit. Si la justice se confondait avec le droit, il n'y aurait pas d'insurgé légitime. Si je veux penser qu'il y a des insurgés légitimes, il faut que je pense que la justice n'est pas identique au droit, mais que la justice dépasse le droit. Elle le dépasse, mais toutefois, elle le fonde, puisque précisément, le droit fait signe vers une exigence de justice. C'est pourquoi j'aime beaucoup la formule d'Alain qui dit « La justice, c'est ce doute sur le droit qui fonde le droit. » La justice, c'est ce doute sur le droit qui fonde le droit. Mais un juriste qui dirait, à la manière de Kelsen, il n'y a pas d'autre droit que la règle, il n'y a pas d'autre justice que la règle observable, ne permettrait même pas de comprendre pourquoi on obéit à la règle et encore moins pourquoi on lui désobéit. En revanche, où Kelsen a raison, c'est que si on peut désobéir au nom d'une justice supérieure, on ne peut pas commander au nom d'une justice supérieure. Et c'est pour ça que les insurgés sont toujours devenus des tyrans. Car l'insurgé a raison de se révolter au nom d'une justice supérieure. Mais quand il a le pouvoir et qu'il rend justice au nom de cette justice supérieure, là il devient monstrueux et il devient violent. C'est la logique de toutes les justices révolutionnaires. Donc la justice, c'est ce doute sur le droit qui fonde le droit. Alors dans l'ordre, je donne la parole à Blandine.
Merci bien. Eh bien, d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité à parler parmi vous. Alors, je ne fais pas du tout partie, pour l'instant, du collège supérieur, ni des institutions qui gravitent autour. Et je voulais aussi remercier mon ami Bertrand Belval, qui m'a demandé d'intervenir dans ce module dont il s'occupe. Donc, il nous est demandé de débattre devant vous de cette question. La justice relève-t-elle de la morale ou du droit ? Alors, je voudrais partir d'une citation qui est déjà un petit peu une provocation en elle-même, mais je pense que tout mon texte va être une provocation par rapport à ce que vous venez de dire. Donc, je cite, « Il n'est pas un mot de langage contemporain plus chargé de passion que la justice. Chacun l'exige selon l'image qu'il s'en forge, et qui révélerait aussitôt son manque de correspondance à la réalité, sans le potentiel affectif dont elle est chargée et qui lui confère un contenu factice. Cette justice explosive n'est pas mesurée par son objet, mais par le sujet qui la revendique et qui en boursoufle les prétentions jusqu'à l'éclatement, en appelant à son aide la morale prétendument outragée en sa personne. Bon, c'est un peu compliqué, c'est extrêmement provocateur et en plus ça ne témoigne pas des idées de l'auteur. L'auteur, c'est un thomiste, un philosophe thomiste réaliste qui est Marcel de Corte. Donc derrière cette charge, ce philosophe belge veut montrer toutes les ambiguïtés qu'entretiennent toutes les ambiguïtés qui font référence aux relations entretenues entre la justice et la morale. Et ces ambiguïtés sont aggravées en plus par les présupposés philosophiques qui se cachent derrière la définition de ces notions. Alors, en raison du temps limité, justement, il faut que je surveille un petit peu ma montre, en raison du temps limité, du cadre limité de ces échanges, mon intervention va assumer clairement une filiation thomiste, c'est-à-dire je vais développer devant vous une philosophie thomiste, une philosophie réaliste. Mais nous n'aurons pas le temps, alors que ça serait très intéressant, mais nous n'aurons pas vraiment le temps de développer les autres approches possibles, les autres courants philosophiques qui peuvent éclairer aussi ces débats de la relation entre la justice, la morale et le droit, ces autres courants philosophiques étant l'idéalisme ou le matérialisme, et qui sans doute nous conduiraient à d'autres conclusions. Donc on va aboutir à certaines conclusions qui sont les conclusions d'Aristote et de Thomas d'Aquin, mais on pourrait aboutir à d'autres conclusions si on se référait à d'autres philosophies. Donc j'assume clairement la position du philosophe thomiste ici, alors que je suis juriste. Mais bon, avant d'entrer dans plus de réflexion, on va essayer de définir les termes, parce qu'il faut savoir de quoi on parle. Comme je suis juriste, je vais commencer par le dernier terme de l'intitulé, c'est-à-dire le droit. Qu'est-ce que le droit ? Réponse, le droit, alors là déjà c'est une réponse peut-être partielle, celle de certains philosophes. Le droit, c'est ce qui est juste. Id quod justum est, disaient les latins. Ainsi, le droit, c'est l'objet du juste. Le droit, c'est le juste, donc le droit, c'est l'objet du juste. Le juste ou la justice constitue la finalité du droit. Et cette acception peut déjà être mise en cause par d'autres, parce que on entend plutôt une autre version du mot droit aujourd'hui, et notamment depuis le XVIe siècle. Le droit, c'est les règles expresses, c'est le catalogue des différentes règles, des différentes lois, des différentes normes qui ont pu être adoptées. Donc là, c'est déjà une définition partielle parce que c'est la définition du droit positif, du droit voté, du droit adopté. Alors qu'auparavant, donc plus anciennement, du temps des Romains notamment, le droit, c'est une notion souple, une notion qui se traduit par un adjectif, à savoir le juste. Donc déjà, on a des divergences sur la notion de droit. Alors, bon, moi, je pars de l'idée que le droit, c'est le juste. Alors, qu'est-ce que le juste ? Donc ça renvoie dans l'intitulé de la conférence à la justice, le juste, la justice. La justice revêt plusieurs sens distincts, deux ont été relevés par mon prédécesseur, M. Dumont. La justice au sens des institutions, actuellement organisées pour rendre la justice, l'ensemble des tribunaux, des juridictions, sans doute ce sera davantage développé par Maître de Belval avec son point de vue de praticien. Ensuite, la justice a un deuxième sens qui est le sens, c'est une vertu, une des vertus cardinales, si on veut développer un aspect plus philosophique, voire moralisateur. Et ensuite, le droit, et le juste et le droit c'est le juste, on en revient à ma première définition, la définition du droit. Le juste, alors je vais vous donner la définition du juste maintenant chez les Romains, puisque le droit c'est le juste, et le juste c'est quoi ? Eh bien le juste, c'est attribuer à chacun ce qui lui revient. Donc formule très très connue, attribue à chacun ce qui lui revient, en latin sum cuique tribuere. C'est donc une affaire d'attribution, de répartition, de distribution entre les personnes. Donc finalement, le droit et la justice, c'est presque la même chose, on tourne un peu en rond, et on y reviendra tout à l'heure. Alors troisième terme, la morale. La morale, c'est une règle de comportement, on va dire, et sans doute très nettement à connotation religieuse. Comme règle de comportement, elle est comparable aux règles de droit, parce que les règles de droit sont aussi des règles de comportement. Mais ayant une connotation, une dimension clairement religieuse, elle va se distinguer de la règle de droit, et on y reviendra également plus en détail. Donc pour répondre à la double question posée, c'est-à-dire la justice relève-t-elle de la morale ou du droit, eh bien il faut reprendre ces trois notions, droit, justice, morale, deux par deux, parce que, bon, je suis un peu binaire, donc deux par deux. Et par provocation, je vais déjà répondre à la question en inversant l'ordre. C'est-à-dire, la justice relève-t-elle du droit? Et ensuite, la justice relève-t-elle de la morale? Et par provocation, je réponds que non. Elle ne relève, la justice ne relève pas du droit et la justice ne relève pas de la morale. Mais enfin, je vais nuancer parce que ces affirmations ne sont effectivement pas exactes, mais pas entièrement fausses quand même. Elles doivent simplement être nuancées. Donc, première réponse à la question posée, première partie de réponse, la justice relève-t-elle du droit? Non, pas exactement, car le droit est ordonné à la justice. Donc, il y a une relation d'ordre, de finalité, entre le droit et la justice. Alors, en allant vite, on peut constater que droit et justice, c'est presque la même chose. D'ailleurs, dans certains des textes que je vais vous citer, on glisse insensiblement de l'un à l'autre. Surtout qu'en français, les deux termes, droit et justice en français, sont la traduction d'un même terme latin. Donc déjà, quand on utilise des citations latines, ça dépend des traductions, parce que c'est le même terme latin, jus. Jus, qui est traduit en français par le droit, mais aussi le juste. Donc après, ça dépend de comment on oriente la traduction. Mais bon, en affinant un petit peu, en approfondissant les choses, on constate quand même une nuance en français entre le droit et le juste. Parce que le droit est considéré comme étant ordonné à la justice. La justice est donc une finalité, et la finalité du droit. Et le droit, par conséquent, puisqu'il répond à une finalité, le droit n'est pas posé comme ça directement, le droit est une recherche constante, une démarche de recherche constante, et pas un ensemble de règles posées. Donc deux points. Premier point, on va donc expliquer en quelques mots avec des citations que le droit, la justice est la finalité du droit, et ensuite que la justice est une recherche constante pour les juristes. Premier point, la justice est une finalité et la finalité du droit. Alors on va reprendre l'approche romaine du droit et de la justice, et je vais vous donner plus en détail les textes. Quand j'ai parlé de sum cuique tribuere, donc attribuer à chacun ce qui lui revient, c'est la fin d'une citation plus longue. Cette citation, on la trouve dans un document romain qui s'appelle le Digeste. Digeste voulant dire résumé portatif de textes préalables. Donc le Digeste, c'était un résumé de différents textes de droit. Et donc dans le Digeste, c'est une citation d'Ulpien. Ulpien étant un juriste romain. Donc la citation d'Ulpien reprise dans le Digeste, traduite en français, la justice et la donc justice, on parle de justitia, la justice, et la volonté constante et perpétuelle d'attribuer à chacun, alors ce qui lui revient dans les traductions les plus fréquentes, ou d'attribuer à chacun ce qui est son droit pour elle, ce qui est le droit pour elle. Tout dépend comment on traduit. Puisque, en latin, c'est ius, le droit, sum cuique tribuendi, attribué à chacun. On attribue le droit à chacun. Et puis le texte, il y a un autre fragment. Les préceptes de la justice sont les suivants. Vivre honnêtement, ne léser personne, attribuer à chacun le sien, attribuer à chacun ce qui lui revient. Sachant qu'en latin, le plus important, c'est toujours le dernier terme. Donc le plus important, c'est attribuer à chacun ce qui lui revient avant de vivre honnêtement et de léser personne. Donc là, vous avez l'approche romaine. Elle découle d'une certaine appréhension, d'une certaine philosophie. Elle découle de la philosophie d'Aristote, puisqu'on trouve un peu les mêmes idées chez Aristote, donc qui était antérieur. Aristote a écrit la justice, traduction. La justice est donc une vertu accomplie non pas dans un sens absolu, considérée dans l'homme pris isolément, mais dans les rapports qu'il peut avoir avec ses semblables. Donc la justice, c'est une question de relation entre ses semblables, de relation entre les hommes. Alors cette idée, on la retrouve ensuite chez saint Thomas d'Aquin, textuellement d'ailleurs. Il reprend textuellement l'extrait du Digeste que je vous ai cité tout à l'heure. Alors, là, une traduction de la Somme théologique dit « La justice est la disposition permanente de la volonté à rendre à chacun ce qui lui est dû. » On a toujours cette idée « rendre à chacun ce qui lui revient, rendre à chacun ce qui lui est dû. » Et on trouve d'ailleurs dans l'épître de saint Paul aux Romains l'expression « rendez à chacun ce qui lui est dû ». Donc c'est quelque chose qui marque aussi, dans la religion catholique. Et d'ailleurs, ça peut renvoyer à la justice divine. On pourrait faire une comparaison avec la justice divine, puisque dans les psaumes, dans la Bible, dans les psaumes, on dit de Dieu que Dieu rend à chacun selon ses œuvres, le Seigneur rend à chacun selon sa voie. Donc on a cette idée de la justice divine, et puis après, avec une comparaison, avec une réplique, si vous voulez, dans la justice humaine. Donc la justice, c'est la finalité du droit, c'est-à-dire que le droit consiste à appliquer ces règles de justice, appliquer cette démarche plutôt, cette démarche de justice qui est d'attribuer à chacun ce qui lui revient. Donc le droit, c'est le juste. Le droit, c'est le juste, et le juste consiste à attribuer à chacun ce qui lui revient. Mais dans la vie courante, ensuite, une fois qu'on a fixé ces grands principes, cette finalité, eh bien, il faut que les juristes, c'est le deuxième point, perpétuent cette recherche constante de la justice. Donc la justice, c'est une recherche constante qui se déploie dans le domaine du droit, qui se déploie chez les juristes. Le droit est une relation. Le droit part d'une relation interpersonnelle, d'une relation entre deux personnes, entre au moins deux personnes. Et les juristes vont chercher à attribuer à chacun ce qui lui revient dans cette relation. Et son aboutissement sera la justice. Donc, quelques citations de philosophes du droit. Par exemple, Freud, en 1990. « Par définition, le droit est relationnel. Il n'appartient à aucun être individuellement parce qu'il ne peut naître que dans la présence d'autrui et avec son accord. Considérer le droit comme la propriété d'un individu et non comme une relation entre une pluralité de personnes apparaît comme une construction individualiste et subjective de la notion même de droit. » Donc le droit, c'est forcément relationnel, c'est forcément dans une dimension relationnelle. Et on va rechercher l'exacte attribution, répartition, proportion entre chacun. On a aussi la philosophe Simone Weil dans L'Enracinement qui a écrit « Un droit n'est pas efficace par lui-même, mais seulement par l'obligation à laquelle il correspond. L'accomplissement d'un droit provient non pas de celui qui le possède, mais des autres hommes qui se reconnaissent obligés à quelque chose envers lui. » Donc il y a toujours cette dimension relationnelle. Et Alain Sériot, qui est professeur de droit, mais qui a une démarche, une réflexion philosophique, « Le droit au sens strict peut être défini comme la règle ou la mesure de nos rapports sociaux interpersonnels. Cette idée de mesure entre deux ou plusieurs personnes en relation d'altérité se retrouve également au cœur de l'antique définition du droit comme étant le juste. Il s'agit de l'exacte mesure de nos ajustements avec nos semblables. » Donc le droit va consister... Donc j'ai fini la citation. Le droit va consister à établir, voire à rétablir un équilibre entre les personnes. Et c'est une répartition des biens, des charges, des honneurs, comme disaient les Latins, entre les personnes, selon une bonne proportion, selon l'exacte proportion. Là encore, un fragment du Digeste, un fragment d'Ulpien dans le Digeste. Le droit, c'est l'art du bien et de l'équitable. L'équitable voulant dire égal, juste proportion. Pas équitable au sens pour les étudiants juristes de la Convention européenne des droits de l'homme. Non, l'équitable au sens de répartition, juste proportion. Et par conséquent, le droit va déterminer la part qui revient à chacun. La démarche juridique consiste à définir ce qui revient à chacun, à définir des procédures pour cela. Encore sérieux, tout juriste appelé à dire le droit dans une relation sociale déterminée est en quête permanente de cette mesure parfaite de l'ajustement entre les personnes. Il est évident que les règles ou mesures qu'il élabore ne font que participer, à un degré plus ou moins grand, de ce juste par essence que constitue le droit. Donc si on prend des exemples, dans une relation, on va appeler ça une relation volontaire, dans le cadre d'un contrat, deux personnes vont passer un accord entre elles, vont passer ce qu'on appelle un contrat. La recherche de la justice, la démarche du juriste, va être de rechercher l'attribution à chacun de ce qui lui revient dans le cadre du contrat. On a un vendeur, on a un acheteur, à propos de n'importe quelle chose. La démarche du droit, c'est d'essayer de déterminer ce qui est le plus juste pour chacun. Donc en fonction de tel bien vendu, quel est le juste prix dont vous parliez tout à l'heure. Et on a la même analyse dans les relations involontaires, par exemple lorsqu'il y a un accident. Dans les relations involontaires, le droit va viser à rétablir, à ce moment-là, on va être dans un rétablissement de l'équilibre rompu. Un accident a été causé à quelqu'un a été blessé ou ses biens ont été endommagés. Eh bien, le droit va viser à rétablir l'équilibre par rapport à cette rupture qui a eu lieu dans le cadre de l'accident. Par conséquent, le droit détermine la part qui revient à chacun. Alors, certains auteurs, certains philosophes mettent ensuite l'accent, donc il y a la relation entre les deux personnes, ça c'est pour tout le monde est d'accord là-dessus. Certains rajoutent qu'il faut une chose entre les deux, donc comme disait M. Dumont, il faut l'intervention d'une chose entre les deux. La simple relation, mais bon, Après, ça, c'est peut-être pas justifiable dans tous les exemples. Mais bon, certains auteurs disent que la relation de justice entre les personnes se fonde sur la médiation d'une chose. Et la justice se trouve ainsi, je cite, doublement chargée d'un lest de réalité objective, celui de l'autre, du partenaire à la relation de justice, et celui de la chose intermédiaire entre les deux termes de la relation. Réaliser envers autrui la chose qui est juste, c'est l'œuvre de justice. Et la justice noue entre l'homme et l'homme une relation sociale scellée par une réalité reposant sur cette chose. Donc là, c'est un extrait de Marcel Lecorte. On a aussi la même idée chez le père André Vincent qui a travaillé sur la philosophie du droit, repris d'ailleurs et commenté par le professeur Daunier. La relation de justice parmi les hommes n'existe entre plusieurs personnes qu'à travers une chose due par l'un à l'autre. Dans mon exemple, c'est vrai que j'ai pris chaque fois l'exemple d'une... Bon, la vente ou même l'accident, ça se résout avec de l'argent. La vente, donc la contrepartie de la chose vendue, c'est de l'argent. Et la contrepartie d'un accident, donc d'une action en responsabilité civile, pour le dire clairement, ce sont des dommages et intérêts. Donc, sur cette première partie de la question et donc sur cette première réponse, la justice relève du droit parce qu'elle lui est ordonnée. La réponse, quand j'ai dit non, c'était une provocation. Il y a bien une relation entre le droit et la justice, entre la justice et le droit, mais une relation d'ordination, c'est-à-dire que l'un dépend de l'autre. Le droit recherche la justice, et la justice est donc la finalité du droit. Alors, deuxième partie de la question, la justice relève-t-elle de la morale ? Alors là, même réponse, non, pas exactement, car la justice est distincte de la morale. Et là, la distinction, à mon avis, est beaucoup plus forte. Parce que droit et justice, c'est un peu un sophisme de les distinguer, j'ai essayé de vous le faire, mais c'est quand même très lié. Alors que morale et justice, c'est quand même différent. Donc à première vue, la justice et la morale, les deux sont liés parce qu'ils régissent des comportements humains. Mais les deux sont quand même distincts, et plusieurs raisons conduisent à mettre en place cette distinction. Ce qui ne veut cependant pas dire qu'elles s'ignorent totalement, là encore. On peut dire que la justice et la morale doivent faire l'objet d'une distinction, mais d'une saine distinction. Donc, première idée, justice et morale doivent faire l'objet d'une distinction. La justice se distingue de la morale sous plusieurs aspects. Je rappelle que pour moi, la justice est entendue ici comme la finalité, l'aboutissement du droit. On est sur toujours cette même idée de justice, le juste. Donc, la finalité du droit. Pas la justice au sens d'institution et de palier de justice, c'est ce que je veux dire. Donc la justice et la morale se distinguent parce qu'elles n'ont pas la même finalité, ni les mêmes outils, ni la même formulation. Elles n'ont pas la même finalité. Cette référence à la finalité découle encore une fois de l'approche d'Aristote et de Thomas d'Aquin. Pour eux, chaque activité se définit par rapport à sa finalité. Donc la morale dicte la conduite individuelle, éventuellement pour les croyants sous le regard de Dieu. Le droit, dans sa recherche de la justice, régit les relations entre les individus et les répartitions entre eux. Donc, ces auteurs, Aristote, Thomas d'Aquin, distinguent les préceptes moraux, moralia, donc les relations de l'homme éventuellement sous le regard de Dieu, et les relations, la posture de l'homme éventuellement sous le regard de Dieu, et les préceptes juridiques, qu'ils appellent les judicialia, qui sont des préceptes de relations entre les personnes. La morale règle les relations de l'homme tout seul ou s'il est croyant avec Dieu, et la conduite individuelle qui est arbitrée par la conscience. Et le droit et la justice règlent les relations des hommes entre eux dans leur vie sociale. Alors, un philosophe du droit que je n'ai pas encore cité, mais bon, je m'en suis aussi inspiré dans ma première partie, c'est Michel Villet, qui a écrit un ouvrage de philosophie du droit. Michel Villet indique « L'objet du droit n'est pas de dicter à l'individu des règles de conduite, mais de déterminer un partage des biens et des charges dans un groupe entre plusieurs personnes. » Je continue ma comparaison, morale et justice. La finalité de la morale, c'est l'accomplissement personnel. C'est la recherche du bien ou du bon pour soi, pour soi-même. Et la finalité de la justice, c'est d'assurer le bien commun entre les personnes vivant ensemble dans la société. Et donc, on vise là la recherche du juste. Pour la morale, recherche du bien, ou du bon, ça dépend, et pour le droit, la recherche du juste. Alors, par conséquent, les philosophes du droit qui sont dans cette approche réaliste montrent que le droit, la justice, n'est pas déontique, n'a pas à dire ce qu'il faut faire, mais seulement à indiquer les relations, les répartitions dans les relations entre les hommes. Et donc là, on a le professeur Aupetit qui a écrit clairement « Le discours proprement juridique n'est pas déontique », ça veut dire dire ce qu'on doit faire, mais il doit déterminer les justes relations entre les personnes, les justes répartitions entre les personnes. Malgré tout, le professeur Aupetit relève que le droit moderne, tout au contraire, est un droit de solution, et donc le droit moderne vire à des règles morales. Tend vers des règles morales, donc là, c'est un peu la difficulté actuelle. Michel Villet aussi relève que les règles morales, alors ça c'est un autre moyen de les rapprocher, de les distinguer, les règles morales sont impératives. En général, elles sont formulées à l'impératif, tandis que les règles de droit sont formulées à l'indicatif. Quand on ouvre le code civil, par exemple, les règles sont à l'indicatif. On énonce un certain nombre de choses. Et donc sont susceptibles d'interprétation ou de discussion. Alors, deuxième, ça c'était la première idée, il faut faire une distinction de justice et morale. Justice et morale, ce n'est pas la même chose, on doit distinguer. Mais deuxième idée, la justice et la morale doivent faire l'objet d'une saine distinction. Saine distinction, je fais référence à dessein à l'expression du pape Pie XII à propos de la laïcité, la saine laïcité. Ouais, je sais. Donc cette distinction de justice et morale n'est pas absolue, elle doit être saine. On pourrait développer ici très longuement, et y passer des heures, mais on va faire ça en quelques minutes, les approches qui existent sur les relations entre le droit ou la justice et la morale, sachant que cela découle en plus des approches et des présupposés philosophiques, avec des évolutions significatives au fil des époques. Alors, très rapidement, on a trois postures. La règle de droit et la règle morale sont confondues. C'est le résultat des philosophies qui ne sont pas réalistes. Le droit est un corps de règles morales et vice-versa, et cela renvoie rapidement à un système théocratique. Alors, bon, on peut dater cela notamment du XVIe siècle, avec Suarez et Molina, qui, dans une interprétation un peu déviante de saint Thomas d'Aquin, en sont arrivés à confondre la morale et le droit. Cela renvoie aussi à certaines traditions religieuses, comme la tradition juive ou la tradition musulmane, où il y a confusion des deux ordres, de l'ordre moral et de l'ordre juridique. Au XIXe siècle, on en arrive à cette approche, mais pour d'autres raisons, pas pour des raisons religieuses, et on finit par charger le droit de faire respecter les principes de la morale. Et aujourd'hui, clairement, en raison de la perte de sens moral, c'est le droit qui prend le relais de la morale absente. Mais clairement, c'est un dévoiement du droit au sens classique tel que je vous l'ai défini dans ma première partie. C'est un dévoiement du droit qui est simplement de gérer et de régir les relations entre les personnes. Deuxième approche, deuxième posture, la règle de droit et la règle morale s'ignorent totalement. Donc ignorance totale des deux ordres. Il s'agit de la laïcité stricte, je dirais même de la laïcité de combat. Le droit l'emporte clairement sur la morale, qui est priée de se cantonner à la sphère privée. Alors cela peut conduire à un totalitarisme. Le droit va devenir religion d'État. Tout est dicté par l'État, qui interfère y compris dans la sphère individuelle. Et surtout, l'État qui va nier tout ce qui n'est pas du droit positif, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas le droit sécrété par l'État lui-même. Il n'y a rien au-dessus du droit. Et là, je voudrais quand même citer un ancien président, Jacques Chirac, qui a dit « non à une loi morale qui primerait sur la loi civile ». Donc la loi civile est un absolu et il n'y a rien au-dessus. Troisième posture qui me semble plus intéressante et qui va permettre de conclure sur une note qui me semble un peu plus salutaire, la règle de droit est subordonnée mais distincte de la règle morale. Donc il y a la règle de droit, il y a la règle morale, et la règle de droit est subordonnée mais distincte de la règle morale. On en revient à l'approche réaliste, à la philosophie réaliste. Alors là, il faudrait distinguer, bon, dans l'histoire, il y a énormément de traductions, on pourrait faire référence à la théorie des deux glaives au Moyen-Âge, la portée réciproque du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel. Ils n'ont pas la même sphère d'influence et ils sont distincts. Mais il y a un respect réciproque. Bon, l'application est difficile. Après, dans l'histoire, on peut renvoyer à la théorie du gallicanisme. Bon, tout cela, ça fait quand même référence, ça découle de la philosophie de saint Thomas d'Aquin. Cette saine distinction découle de l'approche de saint Thomas d'Aquin, ce qu'il appelait l'échelle des lois, alors qu'il n'a rien à voir avec la hiérarchie des normes de Kelsen. L'échelle des lois de saint Thomas d'Aquin, il place au sommet la loi religieuse et morale. En dessous, la loi naturelle. En dessous, les lois humaines. Alors, les lois humaines, c'est le droit positif, ce qu'on appelle aujourd'hui le droit positif. C'est la loi votée par le Parlement, les décrets, la pyramide des normes de Kelsen. La loi naturelle, il faut en dire quelques mots, la loi naturelle, elle est tirée de la nature des choses. C'est la loi qui découle de la nature des choses, telle qu'elle peut être observée, telle qu'elle peut être extraite, abstraite par la raison humaine. Donc la raison humaine va travailler à l'observation de la nature des choses pour en déduire des principes de loi naturelle qui, pour Thomas d'Aquin, ne sont pas forcément avec une connotation religieuse. Il y a la loi religieuse, la loi morale, la Bible, et en dessous, on a la loi naturelle qui découle de la nature des choses. Donc, qui est déjà dans la sphère laïque, si vous voulez, si on utilise des termes modernes que ne connaissait pas Thomas d'Aquin, la loi naturelle, c'est déjà une loi qui n'est, c'est une loi qui n'est pas religieuse. C'est une loi qui est, on est dans la sphère du droit. On est dans la sphère de la loi et donc de l'État. Et donc, chacune de ces lois va intervenir dans son ordre propre, avec sa finalité propre. Mais, aucune ne doit être en contradiction avec la norme supérieure. C'est pour ça qu'il y a une distinction tout en étant un respect mutuel et réciproque. La loi inférieure doit respecter la loi qui lui est supérieure dans l'échelle, comme dans la théorie de Kelsen. Donc la loi humaine doit respecter la loi naturelle et la loi naturelle doit respecter la loi religieuse. Alors cette approche a été remise en honneur par les papes du fin 19e, 20e siècle, alors avec Pie XII notamment, qui a parlé de la saine et légitime laïcité. Mais on a aussi d'autres écrits, Léon XIII et Pie XI ont écrit sur le sujet. Pie XI, par exemple, je voudrais vous faire deux citations pour terminer. Pie XI, l'Église reconnaît à l'État sa sphère propre d'action et en enseigne, en ordonne le plus consciencieux respect. Mais elle ne peut pas admettre que la politique se passe de la morale. Donc il y a une ordination de l'un à l'autre. Et Jean-Paul II, on invoque souvent le principe de laïcité, en soi légitime, s'il est compris comme distinction entre la communauté politique et les religions, mais distinction ne veut pas dire ignorance. Donc c'est une saine distinction, parce que c'est une distinction, mais qui ne veut pas dire ignorance, qui ne veut pas dire qu'on se tourne le dos. C'est simplement une saine distinction sans ignorance de l'une et de l'autre. Voilà, bon, après il y aura sans doute des débats, mais c'était pour donner quelques pistes de réflexion, un peu à contre-courant peut-être.
Bien, Bertrand, si la justice consiste à attribuer à chacun le sien, nous avons commencé par piétiner ce principe, puisqu'il ne vous laisse malheureusement, il ne vous reste malheureusement que très peu de temps.
Bonsoir, merci Jean-Noël pour votre accueil et votre mot de bienvenue. Alors, je vais aborder les choses de manière beaucoup plus simple. Quand on parle de la justice relève-t-elle de la morale et du droit, je dirais qu'on peut en parler pendant des heures. Et même pendant des heures, on ne va pas se mettre d'accord sur qu'est-ce que la justice, qu'est-ce que la morale et qu'est-ce que le droit. Parce que ce sont des termes qui sont tellement empreints de philosophie, d'histoire, de culture, de sociologie, de tout ce qu'on veut, qu'on peut en discuter à l'infini. Alors mon approche, elle va être beaucoup plus simple. Elle va être celle d'un praticien, en tant qu'avocat, et je dirais que j'interviens même plus dans le domaine du droit des affaires, donc pas forcément sur des thèmes qui renvoient à la morale, est-ce qu'on peut divorcer, etc. Enfin bref. Donc sur des domaines où finalement on ne pense ni philosophie ni morale. Passer la journée sur comment redresser une entreprise, et l'objectif c'est que il y a le moins de licenciements possible, c'est qu'on préserve les filières industrielles, etc. Donc la philosophie, la morale et la justice, c'est pas a priori une problématique qui nous intéresse. Mais je dis bien a priori, parce que quand on y regarde d'un peu plus près, et c'est aussi tout l'intérêt de ces discussions de juristes et de philosophes, on s'aperçoit que finalement, qu'on soit juriste, qu'on soit philosophe, on est toujours amené à répondre à des questions. Et simplement, c'est les réponses qui ne sont pas du même ordre. Moi, en tant que praticien, j'ai des réponses à donner qui vont avoir des conséquences directes pour les personnes. C'est-à-dire que je ne vais pas faire des réflexions sur qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce que la justice dans un autre monde. Non, je suis confronté à des situations, si je veux un peu exagérer, hyper concrètes, avec des gens qui ont des questions pratiques et qui attendent des solutions concrètes, pratiques, qui vont se dérouler directement dans leur vie. Et c'est un peu sous cet angle que je vais essayer d'aborder cette problématique. Alors, simplement, un tout petit rappel sur l'aspect historique des choses et sur la séparation morale et droit. Quand on était à l'université, on nous a toujours appris qu'il y avait la séparation de la morale et du droit. Le droit, c'est une chose, la morale, c'est une autre chose. Et simplement, au début du siècle, il y avait un auteur célèbre qui s'appelait Ripert, qui avait fait un ouvrage sur la règle morale dans les obligations civiles, ça date de 1926, et il avait dit que le droit pouvait être vivifié par la morale. C'est-à-dire, le droit, c'est distinct de la morale, mais on peut mettre un peu de morale dans le droit, ça fait pas de mal, ça renforce un peu le droit. Et puis, dans les années plus récentes, 90, on a vu une autre morale qui est arrivée, et si vous l'avez jamais lu, je vous conseille de le lire, il y a un formidable ouvrage d'un éminent juriste qui s'appelle Doyen Carbonnier, qui était en plus un sociologue du droit. C'est un petit livre qui s'appelle « Droit et passion du droit sous la Ve République ». Et il montre qu'on est abouti aujourd'hui à avoir des morales qui sont transformées en droit, des morales d'État. Et l'exemple qu'il cite notamment, c'est toute législation sur les comités d'éthique qui vise à instaurer des nouvelles morales, mais qui en fait sont du droit, avec ce qu'a dit Jean-Noël tout à l'heure, le risque d'une forme de totalitarisme. Et puis, on a un troisième mouvement qui est encore plus récent, c'est un droit qui se veut totalement amoral, et je dis bien amoral et pas immoral, avec un A privatif, c'est-à-dire un droit qui est détaché de toute morale, un droit qui se veut purement démocratique, sur lequel il n'y a aucune référence de la morale. Eh bien, c'est à travers ces trois petits éléments que on va essayer de rechercher ce qu'est la justice. Alors, si je me contente maintenant de renvoyer la morale relève-t-elle de la justice et du droit, que j'aborde les trois questions, je vais forcément aboutir à une solution qui n'en sera pas une. Et j'aimerais, pour présenter cette question, partir d'une autre approche totalement renversée. Si je dis à mes clients la justice relève de la morale et du droit, ils vont me regarder avec des grands yeux parce que c'est pas du tout ce qu'ils recherchent. Et si j'aborde leur dossier de cette manière-là, je suis sûr de passer à côté du sujet et ils vont vite repartir. Et donc, dans notre métier, puisque même si la justice avec un grand J, c'est quelque chose qui n'apparaît pas de manière évidente, et la justice, elle est toujours présente. Et donc, ma question, celle que je me pose, y compris dans des matières, dans des affaires, c'est finalement, qu'est-ce que recherchent les justiciables? Parce que, à travers cette question, on s'aperçoit que qu'est-ce que recherchent les justiciables? C'est rien d'autre, finalement, qu'une forme de justice, parce que s'ils font appel à la chose judiciaire, c'est qu'ils ont un conflit, et ce conflit, ils vont le résoudre par l'intermédiaire d'une décision de justice. Et là, on est dans l'ambiguïté entre la justice institution et la justice finalité. Mais pour eux, concrètement, c'est la justice qui va être rendue dans le cadre du tribunal. Et il y a une forme de symbiose ou de fusion entre la justice institution et la justice recherchée. Il n'y a qu'à entendre, par exemple, à l'occasion de procès célèbres, des personnes qui sont sur les marches du palais et qui, à la fin d'un procès d'assises, disent qu'ils n'ont pas eu justice. Et eux, ils attendent la justice qui est la justice au sens de l'idée, avec une justice qui soit effectivement concrète. Alors, ma problématique, c'est comment on peut essayer de répondre à ce besoin de justice des gens. Alors, comment on peut procéder? La première chose qu'on constate chez les personnes, c'est qu'elle recherche des solutions qui soient sûres, qui soient objectives et qui soient prévisibles. C'est d'ailleurs toute la difficulté aujourd'hui, puisque on est dans une confusion générale. Et des solutions sûres, des solutions prévisibles et des solutions objectives, ben, c'est déjà une forme de justice. Parce que quand les personnes vont accéder à la chose judiciaire, elles vont avoir une réponse qui va pouvoir correspondre à ce qu'elles attendent, car elles auront pu se faire une idée sur les critères qui vont décider pour l'élaboration de la justice. Et par conséquent, le droit, et j'y reviendrai tout à l'heure sur la présentation du droit qui a été faite par Jean-Noël, sur laquelle je ne suis pas tout à fait d'accord, le droit, c'est finalement un moyen sûr de rendre la justice. Parce que en fixant des normes qui sont préétablies, on aboutit à des solutions relativement prévisibles. Alors que si on fixait comme système normatif la morale, à partir du moment que la morale est quelque chose d'intérieur, bien, on aurait des décisions qui seraient totalement imprévisibles. Parce que quand je suis face à un juge, je sais quel est le droit français, mais je ne sais pas forcément ce que le juge pense. Donc, je ne vais pas me fonder sur quelle est la morale du juge, je vais me fonder quelles sont les règles que le juge va devoir respecter pour rendre la décision. Donc, premier point, la justice, c'est d'abord quelque chose qui est relativement prévisible. Mais, ce que les personnes attendent aussi, c'est la deuxième chose. Ils n'attendent pas une justice qui soit purement mécanique. Les normes, elles ont un avantage, je viens de le dire, en ce sens qu'elles sont prévisibles, mais elles ont aussi un inconvénient qui peut être particulièrement fort, c'est que ces normes, elles sont rigides. Et ce que les personnes attendent aussi de la part des juridictions et des magistrats, ce sont des personnes qui, au-delà des règles qui existent, soient capables de les interpréter et de les remettre dans le cadre d'une situation humaine. Et c'est d'apporter un peu de l'épaisseur humaine dans le cadre d'une affaire qui est guidée par des règles juridiques. On a longtemps parlé que les juges étaient les bouches de la loi, mais c'est pas tout à fait exact. Les juges ont un pouvoir d'appréciation fort pour remettre un peu de l'humain dans des règles qui se veulent générales et absolues et qui même peuvent être un peu génériques par certains égards. Donc de les rapprocher de cette justice recherchée par les personnes d'une forme de justice humaine. Et à cet égard, il y a eu un ouvrage, je vous l'ai amené récent, d'un de mes confrères lyonnais qui s'appelle François Saint-Pierre, que vous connaissez peut-être. Ça s'appelle « Au nom du peuple français, jury populaire ou juge professionnel ». Et dans cet ouvrage, il se pose la question de savoir si dans le cadre des cours d'assises, il vaut mieux avoir des juges professionnels ou il faut avoir des jurés ou éventuellement un système mixte. Aujourd'hui, on a un système mixte qui a évolué avec une prépondérance quand même des juges professionnels. Eh bien, dans son ouvrage, il montre très bien que si la justice professionnelle présente des avantages certains, dans le sens où nous avons des magistrats qui ont une connaissance approfondie du droit, qui ont une expérience de la matière juridique, et qui donc, a priori, seraient mieux disposés que les jurys professionnels qui sont des gens qui sont tirés au sort à l'occasion de chaque session de cour d'assises, eh bien, il n'empêche que quand on regarde les décisions qui sont rendues, il y a parfois des décisions qui sont bien plus profondes quand elles sont abordées par des jurés professionnels plutôt par des jurés, pardon, plutôt que par des juges professionnels. Et donc, alors que on pouvait penser que ce sont les professionnels qui sont les mieux habilités à rendre la justice, eh bien, finalement, il a démontré dans son ouvrage, qui est vraiment excellent et que je vous conseille de lire, qui vient juste de sortir, que les jurés étaient aussi des moyens de mieux rendre la justice. Donc, je récapitule, le droit, il assure la sécurité. Mais que le droit, c'est insuffisant, il faut donner une épaisseur humaine que l'on retrouve dans une manière de tempérer cette rigidité du droit. Mais, troisièmement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire alors qu'on se trouve dans une société qui a un pluralisme des valeurs extrêmement important? Si nous étions dans une société très homogène, et un peu comme sur l'île déserte, on pourrait dire que la morale suffit à régler ou à réguler les interactions entre les personnes. Or, aujourd'hui, nous avons des personnes qui ont des cultures très différentes, quand elles en ont d'ailleurs, avec des valeurs qui peuvent être totalement opposées. Et donc, quand on se situe dans ces systèmes-là, finalement, le droit, c'est peut-être la meilleure des solutions. Parce que apporter une forme d'appréciation morale, ça nous renvoie aussi à la vieille maxime qui avait été invoquée à l'époque révolutionnaire, Dieu nous garde de l'équité des parlements, parce que derrière des appréciations plus subjectives qu'objectives, il y a toujours le risque de l'arbitraire. Et donc, dans des sociétés qui sont extrêmement pluralistes comme les nôtres, finalement, c'est peut-être pas une justice qui est très élevée, mais c'est peut-être la moins mauvaise des justices. Elle passe par l'intermédiaire du truchement du droit. Donc finalement, on voit quand on progresse aujourd'hui que le droit, c'est peut-être une voie prioritaire pour la recherche de la justice. Alors, je vais juste faire une petite digression justement sur cette notion de droit. Jean-Noël Dunon vous a démontré tout à l'heure que le droit, c'était forcément quelque chose de connu et qu'il n'y avait pas de droit inconnu, je caricature un petit peu. Pour nous, juristes, c'est bien plus compliqué. Moi, le droit, je ne le connais pas. Je connais des textes, je connais des normes, je connais des jurisprudences, etc. Mais le droit, je ne le connais pas parce que finalement, on le recherche dans chaque décision. Et il y a une vieille maxime latine des canonistes médiévaux qui disait « Ius facto oritur », des faits sort du droit, même sort du droit. Et donc, le droit, c'est pas quelque chose qui est connu. On a trop tendance aujourd'hui à confondre le droit et la loi. Et quand on parle du droit, en réalité, on est dans une démarche de recherche, dans une démarche de questionnement, et c'est pour ça que le droit, c'est aussi un moyen d'aborder la justice, parce que à travers le droit, on recherche des solutions qui sont de nature à satisfaire les personnes. Et toujours pour compléter ces petites digressions sur le droit, on nous a dit tout à l'heure que finalement, et j'avais noté, le droit, ça permet de rechercher la chose juste, le juste prix. Et donc, le droit, c'est une répartition des richesses, des matières, etc. Alors, je m'inscris un peu en faux contre cette approche, qui est pourtant une approche très classique de Villet, qui était un philosophe du droit particulièrement éminent. Pourquoi ? Personnellement, j'ai jamais rencontré des choses à mon bureau. C'est un peu provocateur, mais je rencontre des personnes. Et quand j'ai des jugements, quand j'ai des décisions, ce sont jamais des choses qui sont condamnées. Ce sont des personnes. Ce sont des particuliers, ce sont des entreprises, ce sont des associations. Donc ce sont des personnes physiques ou morales. Et par conséquent, dire que le droit règle des choses, fixe la chose juste, le juste prix, c'est pour moi un raccourci qui est un peu trompeur, car la chose, elle est inerte, et derrière la chose, il y a toujours la personne. Et c'est pour cela que quand on se pose la question de savoir si la justice, elle relève du droit ou de la morale, il faut jamais oublier que le droit, c'est pas quelque chose qui vise simplement à fixer le permis et l'interdit, qui vise à répartir les richesses, qui vise à faire des séparations entre les patrimoines, etc. Le droit, c'est une notion qui renvoie toujours à des personnes. S'il n'y avait pas de personnes, il n'y a pas de droit. Voilà. Et de même, la morale, c'est quelque chose qui est profondément personnel, puisque c'est une forme de conscience ontologique, ou c'est, pour citer l'expression de Kant, l'impératif catégorique, c'est quelque chose qui renvoie à la nature humaine. Donc, poser la question, la justice relève-t-elle de la morale et du droit ? Je pense que c'est peut-être une mauvaise opposition. La justice, la morale et le droit, c'est une forme d'alchimie, c'est un ensemble de notions que l'on retrouve ensemble, simplement, elles se situent à des niveaux différents. Pour ce qui est de mon métier, je suis, comme je vous l'ai dit, confronté à des personnes qui recherchent la justice. Eh bien, la justice des tribunaux, c'est peut-être pas la meilleure, mais c'est, pour reprendre et adapter la formule de Churchill, la pire des justices à l'exception de tous les autres. Et comment est-ce que l'on peut parvenir à cette justice ? Ben, c'est peut-être encore par le droit qui va nous fixer des normes communes auxquelles on va pouvoir se référer pour lutter contre l'arbitraire, avec une intégration des règles morales qui sont ne serait-ce que le bon sens populaire pour intégrer des valeurs dans le cadre de ces normes. Et le tout, c'est la justice, c'est la quête de justice, c'est le procès, et dans le procès, il y a la démarche, il y a un processus, on parle pour les entreprises, mais le procès, c'est un mot qui veut dire un peu avancer en latin. Et donc, c'est une recherche permanente de ce qui est juste. Dans notre métier, finalement, j'ai pas la prétention de rechercher ce qui est juste. Je dirais que notre rôle, à nous, c'est peut-être déjà de limiter les injustices, car si on sait pas forcément ce qu'est la justice, et là aussi, pour transposer Pascal, justice en delà des Pyrénées, erreur au-delà, Eh bien, pour nous, la justice, je ne la connais pas, je n'ai pas la prétention à être plus juste qu'un autre, mais par contre, on rencontre des situations qui sont des injustices, et notre rôle, c'est d'essayer de les diminuer pour pouvoir rendre satisfaction aux personnes. Voilà, je vous remercie.